Et voilà, donc merci à mes deux invités d'être venus pour ce quartier libre. Il s'agit, on va commencer par Nelly Kars, vous êtes éducateur sportif, vous êtes aussi une aventurière, également guide de montagne.
Accompagnatrice en montagne.
Accompagnatrice en montagne,
guide naturaliste, avec à l'avenir un challenge effectivement autour de l'eau. Donc, il y a le sujet de ce dont on va parler aujourd'hui.
Voilà, merci. Et puis, à vos côtés, Bruno Lambert, que l'on connaît bien sur Fréquence Mistral, mais on va quand même le présenter. Bruno Lambert, qui est guide de montagne, mais qui est aussi...
Je suis accompagnateur, Odile.
Accompagnateur, ouais, ouais. D'accord. Guide, c'est pas ça.
Je suis accompagnateur, guide naturaliste, et j'ai été guide d'expédition, donc un petit peu sur tous les milieux de la planète, voilà.
D'accord. Et bien sûr, on va parler des marcheurs de la Terre, les marcheurs de la Terre qui fêtent leurs 20 ans. On va rappeler le concept puisque vous êtes
voilà.
Allé à
en
l'origine.
Voilà. Alors en fait, les marcheurs de la Terre sont nés sur la banquise en 1995, alors que je marchais sur le pôle, en direction du pôle Nord. Et suite à cet exploit, parce qu'en fait, ce challenge donc, a été un record. Hein. Il y a eu un record de vitesse. Ma coéquipière est devenue donc la première femme à atteindre le pôle Nord magnétique à pied. J'ai gambergé pendant à peu près 2 ans et j'ai déposé une marque, Les Marcheurs de la Terre, en 1997, qui use du concept de l'aventure vécue et de l'expérience vécue comme vecteur de connaissance et d'émerveillement. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons de la sensibilisation et de l'éducation environnementale à partir d'un exploit sportif. Alors c'était valable en 1995 alors que la marque n'existait pas. En 1997, j'ai préparé un programme d'expédition qui a duré une bonne quinzaine d'années, voire même plus. Et à chaque expédition était associé donc un programme éducatif. Alors à l'époque, c'était rigolo parce qu'on avait que le téléphone, la radio, il y avait un suivi en temps réel avec le fax. Bon, maintenant, ça se fait par Internet. Et à travers le rêve et l'aventure véhiculée par ces expéditions et ces explorateurs ou ces sportifs, dans le cas de Nelly, on fait passer de très nombreux messages sur les problématiques écologiques. Alors là, effectivement, on va parler du projet Water Stories, donc sur l'eau, mais également des forêts tropicales, de la déforestation, du réchauffement climatique, etc., etc. Voilà, c'est associer l'aventure à la sensibilisation environnementale.
Alors vous êtes intervenu beaucoup dans des écoles.
Ah oui, depuis l'origine des marcheurs en 97, même avant, parce que moi ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans l'aventure, j'ai arrêté de compter, hein, mais je pense qu'on a dû visiter près de 100 000 personnes. Voilà, alors dans ces 100 000 personnes, il y a également les grands salons, les grands événements, où là vous allez voir de 5 à 10 000 personnes sur 3-4 jours de présence. Après, ça fait quelques centaines d'écoles, alors écoles, collèges, lycées, etc., etc., beaucoup d'interventions auprès du grand public aussi. Donc il y a eu effectivement énormément d'interventions pédagogiques. Et aujourd'hui, on peut mesurer les retours, parce qu'en fait, les plus petits chez qui on est intervenu il y a 25 ans de ça et 20 ans de ça, bon, sont adultes et ça a quand même laissé quelques traces, quoi. Voilà.
Alors on va parler de ces projets à venir. Vous avez écrit aussi des livres, je ne sais pas si on en a parlé.
Oui, il y a quelques livres, quelques films, il y a pas mal de records sportifs aussi, hein, que ce soit dans la jungle, au pôle ou ailleurs. C'est vrai que souvent, quand j'exprime les marcheurs de la Terre en chiffres, c'est assez hallucinant parce que ça fait voilà, près de 100 000 personnes visitées. Plus de 100 000 km à pied, à la pagaie, à la voile, ça fait 4 000 bivouacs à peu près. Donc ce sont quand même des chiffres assez astronomiques, des températures de moins 55, moins 60 et de plus 60 aussi. Des isolements sans voir un être humain qui peuvent durer 40, 50, voire 90 jours. Donc c'est quand même des grosses, grosses explorations, quoi. Il n'y a pas que le volet éducatif, hein, le volet sportif était déjà très, très engagé, et l'est encore d'ailleurs. Et ça a donné suite, évidemment, à pas mal de films, de livres, et voilà, quoi.
Alors, on peut en trouver et en voir sur votre chaîne YouTube, Les Marcheurs de la Terre.
Alors, effectivement, donc, sur la chaîne YouTube, qui est relativement récente, on a mis quelques clips correspondant aux premiers âges des Marcheurs de la Terre. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu figure d'archive. Et depuis quelques temps, avec la nouvelle société de production rattachée aux Marcheurs de la Terre, Octopus Production, donc une société de production de documentaires, on a mis des clics beaucoup plus actuels, et dont la promotion des livres, des projets éducatifs, etc. Mais on peut également voir pas mal d'extraits de films d'expédition en Amazonie ou autre. Voilà.
Alors, vous parliez d'une absence des marcheurs de la Terre pendant quelques temps.
Oui, alors ça, c'est toujours pareil. D'ailleurs, j'ai fait une petite biographie. On a fait une petite biographie qui est diffusée maintenant sur YouTube. Puisqu'on m'a souvent demandé, on m'a dit, on ne voit plus. On ne voit plus dans les médias, on ne voit plus en conférence. Et en fait, ce qui s'est passé, mais je crois que c'est un petit peu chez tout le monde pareil, au tournant de la quarantaine, je suis devenu papa. Et j'avais pas mal de ménage à faire dans ma tête, comme beaucoup de gens, donc je le dis ouvertement, quoi. Et ce qui fait que, ne pouvant pas tout faire à la fois, j'ai pris un petit peu de recul, pensant que j'allais réellement m'isoler. Je ne savais pas vraiment si j'allais revenir dans le monde de l'aventure professionnelle, c'est-à-dire avec l'environnement médiatique, politique, les financiers, etc. C'était un milieu qui était un petit peu... C'est la face cachée de l'aventure, hein, tous les professionnels le savent. Un petit peu dans le domaine des artistes, c'est pareil aussi. C'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Et puis bon, il fallait quand même revenir, quoi. Revenir parce qu'effectivement c'était une nécessité pratique et professionnelle, et revenir parce que le message personnel, enfin les messages que je voulais transmettre étaient parfaitement synthétisés au niveau personnel, donc aptes à être retransmis. Voilà. D'où cette absence qui a duré quelques années où je suis parti tout seul très longtemps dans le désert, en terre de feu. J'ai marché, j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai écrit. Voilà. Et à côté, je jouais mon rôle de papa.
Eh bien, bravo pour avoir mené tout ça de front. Et puis, autour de l'eau, voilà. et pas un petit projet, mais un exploit sportif, on peut le dire, avec Nelly Kars, donc ici présente. Vous allez nager 100 km à travers les lacs et les gorges de la région PACA.
Oui, tout à fait. Donc 100 km de nage autonome, je précise. Donc on n'est pas du tout sur la même discipline que la natation en piscine. La nage autonome en longue distance n'est pas du tout assurée de la même manière. On ne peut compter que sur soi. Donc les 100 km de nage vont se faire en une dizaine de jours, ce qui donne, vous pouvez faire le calcul, hein, une dizaine de kilomètres par jour à la louche.
À la louche. Alors, pour ça, évidemment, vous êtes hyper entraîné. Vous continuez à vous entraîner?
Je continue à m'entraîner. Hyper entraîné, non.
Non.
Non, pas hyper entraîné. Par contre, l'entraînement est progressif.
Oui.
En matière d'entraînement, donc, je vais tout simplement courir, marcher, faire du vélo, faire de la muscu. La gym en salle, c'est important, mais ce qu'il faut surtout, c'est s'entraîner dans le milieu, dans le lac. Donc pas dans le milieu en piscine, il faut aller sur le terrain, dans l'eau. Donc en ce moment, ça se fait surtout sur le lac de Sainte-Croix. L'eau était à 15 degrés la semaine dernière, donc c'est pas très chaud.
Alors est-ce que vous allez nager en combinaison?
Absolument.
Oui, absolument. C'est indispensable pour autant de...
Pour tenir 6 à 8 heures dans l'eau sans combinaison à 15 degrés, il faudrait être sacrément costaud.
C'est-à-dire 6 à 8 heures dans l'eau consécutive?
Ah, consécutive. C'est une base minimale sur une journée d'entraînement. Donc 6 à 8 heures de nage consécutive, oui.
Sans pause
Ah si, je m'arrête quand même pour respirer, boire du thé, manger.
Voilà, donc il y a des temps d'arrêt sur le sol?
Non, absolument pas sur le sol. Je reste dans l'eau.
Vous restez dans l'eau.
Alors, je reprends la parole en vitesse parce qu'effectivement, il peut y avoir des temps d'arrêt sur la berge. Parce que moi, je m'occupe de la logistique et de la sécurité, ouais. Et également donc de l'équipe de tournage. Mais Nelly a omis de dire qu'elle tractait, un petit peu comme sur la banquise d'un traîneau, elle va tracter une bouée.
Voilà, c'est ça que j'ai vu sur le petit film.
Et en fait, alors je crois que sur l'un des films, c'est une toute petite bouée, c'est un petit flotteur, mais en fait, elle va tracter une grosse bouée, mm-hmm. sur laquelle il y aura son autonomie alimentaire, la sécurité, les fusées de survie, les miroirs de signalisation, la radio, le téléphone, etc. etc. Donc effectivement, quand on a des très grands lacs comme Serponçon, ou Sainte-Croix, quand on est vraiment au milieu du lac par grand vent, on a l'impression d'être sur une petite mer. Donc il faut vraiment avoir un esprit très très marin et avoir une bonne maîtrise de la mer, on va dire. Par contre, sur des petits lacs comme le lac d'Esparron ou le lac de Quinçon, il est évident que là, la berge est à côté. Bon, dans ce cas-là, s'il y a un souci ou s'il y a besoin de se reposer, ça se fera sur la berge, quoi. Voilà. Mais c'est important de voir que sur les lacs de PACA, on a quand même trois très grands lacs. Je pense à Serponçon, à Sainte-Croix, et à Saint-Cassien, donc dans l'arrière-pays de Cannes, les autres offrant plus de facilité de repli en cas de pépin. Voilà. sont beaucoup plus étroits. Quant aux gorges, on parle bien des gorges ennoyées, hein, parce que ce n'est pas de l'eau vive, hein, donc ça peut être la fin des hautes gorges du Verdon et les moyennes et les basses gorges du Verdon. Alors il est évident que là, ça peut être un petit peu plus problématique, non pas à cause du courant, parce qu'il y en a très peu, mais tout simplement parce que des parois sont très raides, il n'y a pas vraiment moyen de se replier, ce n'est pas évident, et l'eau est très froide. Elle est rejetée par les barrages, et en fait, il peut y avoir une eau à 4 degrés. Voilà. Donc ça peut aussi générer pas mal de problèmes, des malaises, des syncopes, etc. etc. Et là, il faut avoir une parfaite connaissance de soi. C'est pour ça qu'on parlait du sport, mais c'est vraiment une discipline aventure en PACA, quoi. Voilà, bon, je lui ai pris la parole. Mais...
Oui, elle va la reprendre. Donc, moi, j'ai besoin d'imaginer comment ça va se passer. Vous avez déjà fait ce genre de natation au long cours?
Oui. J'ai d'abord vécu pendant une dizaine d'années dans le Pacifique Sud où je n'ai fait que nager. Concrètement, je suis devenue plongeur professionnel, donc je nageais tous les jours et aussi toutes les nuits. Donc c'est devenu une véritable passion. L'élément lui-même, j'y suis comme un poisson dans l'eau.
Ouais.
Donc de ce côté-là, ce n'est pas vraiment un souci. Après, dans nos lacs, ce qui va se passer, c'est que bon, moi, de mon côté, j'ai déjà beaucoup nagé dans nos lacs. L'année dernière, par exemple, je faisais l'aller-retour sur le lac de Sainte-Croix, ce qui donne à peu près 25 km dans la journée. Ça donne une journée de 10 heures de nage. Donc ce sont des choses qui sont déjà faites. Par contre, 10 journées comme ça consécutives, c'est encore jamais fait. Et à ma connaissance, dans nos lacs, ça n'a encore jamais été fait également.
Et alors, est-ce que vous avez vécu, en faisant ces allers-retours de ces 25 km, il n'y a pas de crampes? Quels sont les problèmes qui pourraient vous arriver?
Alors moi, j'ai beaucoup de chance, je suis quelqu'un qui a très très peu de crampes. Mm-hmm. Donc de ce côté-là, ce n'est pas vraiment un souci. Après, le problème qui peut vraiment arriver quand on est dans l'eau, seul face à soi-même, c'est un malaise vagal, par exemple. Mm-hmm. Quand on est très fatigué, ça peut arriver. Et là, pour le coup, quand on tombe dans les pommes, dans l'eau, on peut se noyer.
Ah
donc,
oui.
Il faut pouvoir avoir assez de discernement pour pouvoir m'attacher moi-même sur ma bouée avant que ça arrive, si ça arrive. Mm-hmm. Et ensuite, il y a la présence des autres usagers sur le lac. Et ça, tout le défi est là aussi. Donc, il y a des gens qui, sur le lac de Serponçon, peuvent faire du ski nautique. Il y a des couloirs pour ça. Sur des lacs comme le lac de Sainte-Croix, les moteurs thermiques sont interdits. Par contre, il y a beaucoup de planches à voile, de catamarans qu'on n'entend pas arriver. D'où la nécessité aussi d'être visible avec une bouée vraiment bien pétante au niveau des couleurs. Après, sur une journée de nage telle que celles qui vont être vécues en septembre, le défi, c'est aussi la logistique à terre. L'équipe qui sera à terre devra suivre tout ça et ce n'est pas forcément facile aussi.
Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous nagez comme ça pendant des heures, durant ? Il faut être complètement zen.
C'est ça qui est vraiment fabuleux en fait. Quand on nage pendant des heures, durant, il ne se passe plus rien au bout d'un moment dans la tête. Et c'est peut-être aussi pour ça que les sportifs de l'extrême recherchent à aller toujours plus loin. On lâche prise. Donc le blabla qu'on a perpétuellement, que tout le monde a en ce moment dans sa tête, ce blabla-là disparaît au bout d'un petit moment. Et il n'y a plus que les nécessités vitales. Garder son cap, donc c'est très très difficile de garder son cap dans une zone d'eau libre où il n'y a pas de repère. Donc on va dévier très facilement sur la droite, sur la gauche, on peut tourner en rond.
Ah oui.
Ça, je fais pas attention. oui, ça va très vite. Donc pour ça, pour garder mon cap, moi j'ai deux solutions. D'abord, je lève la tête très souvent. Ça me permet aussi de vérifier s'il n'y a pas des planches à voile, des bateaux, etc. Et j'utilise l'inclinaison des rayons dans l'eau par rapport à celle des vagues. Et ça me permet de garder un cap approximatif. Après, ce qui se passe dans ma tête au bout de quelques heures, c'est le non-pensé. Je vais croiser de gros poissons, ça arrive souvent. Ça peut réveiller des sensations un peu impressionnantes qui me rappellent pour moi de bons souvenirs. Quand je nageais beaucoup dans le Pacifique Sud, il y avait des très très gros poissons et ça pouvait faire très peur, mais c'était aussi fabuleux. Mais dans les lacs, on peut retrouver ça également.
Et vous parliez, enfin Bruno Lambert parlait d'attaques de requins. Vous avez vécu ça?
Pas dans les lacs, hein?
Oui, pas dans les lacs, bien sûr.
Non, parce que là, ils vont...
non, mais pour revenir aux gros poissons.
Ah oui, mais là. Oui.
Ça peut être traumatisant, ça.
Oh non.
Pas du tout.
Bon, alors il faut reprendre les choses dans l'ordre. Moi, quand j'étais une petite fille, j'avais peur de l'eau. J'avais peur de m'éloigner du rivage. J'avais peur des grosses vagues. Ça m'impressionnait. Je perdais pied. Quand je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie, je me suis rapidement tombée amoureuse de l'eau. Donc, il a fallu passer cette peur pour aller voir ce qu'il y avait dessous. Et le monde qui était dessous était tellement passionnant que les peurs ont disparu assez vite. Mm-hmm. Les requins eux-mêmes, au début, quand on les croise, on est terrorisé. Qu'ils soient petits ou gros, on a quand même cet imaginaire qui est vraiment ancré. L'image des requins qu'on a, elle est quand même assez catastrophique dans nos sociétés. Il faut savoir qu'il y a 350 espèces de requins qui sont répertoriées. Sur ces 350, il n'y en a que 5 qui sont qualifiées de dangereuses pour l'homme. Que les attaques de requins sont vraiment rares. Les moustiques tuent chaque année des milliers de personnes dans le monde. On n'en fait pas forcément tout un plat. Par mm-hmm. contre, médiatiquement parlant, quand il y a une attaque de requin, ce qui est dramatique quand même, c'est très, 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 très médiatisé. Et du coup, on a très vite peur du requin, alors qu'on ne devrait pas nécessairement avoir peur. Et le requin, quand on le croise dans l'eau, il va le savoir si on a peur. Il va le sentir, il va entendre notre rythme cardiaque qui va s'accélérer. Et pour lui, c'est du 10 sur 10, il peut lire à travers nous. Donc croiser un requin, déjà, c'est garder une contenance très différente. Il faut, non pas avec, comme avec les chiens, par exemple, les chiens, il ne faut pas les regarder dans les yeux. Un requin, au contraire, il faudra vraiment le tenir à l'œil, il faudra qu'il sache qu'on le regarde. Ensuite, effectivement, si on n'a pas peur, c'est une très bonne chose, mais dans la réalité, on a peur. Mmh. Et il faut faire basculer cette peur de manière à être tranquille avec soi-même. Et le requin le sentira, il sentira cette contenance. Et à partir de là, oui, je peux parler des attaques de requins. Donc, oui. J'en ai vécu. Pas des grosses. Il me reste tout mon corps en entier. Ouais. Je n'ai pas été mordue.
Mais vécu, c'est-à-dire plusieurs.
Oui. Comme j'étais pêcheur, j'étais également plongeur sous-marin en apnée. Et je pêchais en apnée. Et comme tous les plongeurs en apnée, quand on pique un poisson, il arrive des fois qu'on le pique mal. Donc, le poisson s'échappe. Et les requins savent qu'il y a un poisson qui s'est échappé. Donc les requins font très rapidement une association entre le bruit de la flèche du chasseur et le poisson qui s'est échappé. Donc dans la zone où je plongeais régulièrement, il y avait un petit requin tigre qui a grandi quasiment avec nous et qui a commencé à devenir assez incisif. Un requin tigre, c'est un requin dangereux. Là, c'est vraiment clair. C'est un requin impressionnant aussi, même quand ils sont petits. Et oui, c'est arrivé qu'il attaque. Donc moi, je me suis fait mordre une palme. C'est des choses qui arrivent. On n'a plus envie de remettre les pieds dans l'eau pendant un petit bout de temps. Mm-hmm. Mais ce n'est pas allé au-delà. Donc le requin a fait une attaque envers moi, tout simplement parce qu'il m'a associé au poisson qui pouvait être piqué. Et il a considéré que le plongeur pouvait lui donner du poisson.
Ah oui. Mm-hmm. Bien. Bon, et ben,
on n'a pas ça dans nos lacs.
On n'a pas ça dans les lacs, heureusement.
Mais il y a grosses bêtes dans nos lacs quand même.
Oui.
Oui. Savoir que le lac de Sainte-Croix a été noyé il y a 40 ans et donc l'écosystème aquatique qu'il y avait à l'époque était un écosystème de rivière, s'est transformé. Il y a eu des apports d'espèces exogènes, c'est-à-dire des apports d'espèces qui sont sorties des aquariums. On le voit facilement avec les tortues de Floride qui sont des petites tortues de compagnie que les gens ont chez eux. Alors généralement, les insectes chats, c'est gros comme ça, quoi. Sauf que ça devient énorme, une tortue de Floride. Et actuellement, au lac de Sainte-Croix, vous avez des très, très grosses tortues qui massacrent les tortues indigènes. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, il y a certains poissons tropicaux aient été relâchés. Étant donné que la température de l'eau commence à monter d'année en année, de toute façon, ces poissons, il arrivera peut-être à un moment donné où ils vont trouver un milieu de vie suffisamment confortable pour se développer. Et là, on risque d'avoir des surprises. Ceci dit, il ne faut absolument pas fantasmer. Mais ça se voit, ça se sait. Il n'y a pas que les crocodiles dans les égouts de Paris. Hein. Ou les anacondas, ça on le sait très bien, il peut y avoir des espèces qui mutent tout simplement dans nos lacs et dans nos rivières. Voilà.
Donc Nelly Cars, vous allez traverser ces lacs de notre belle région. Vous avez donc un moral, un mental fort. Il est indispensable d'être tranquille pour nager. Ça peut être dangereux aussi si on a la tête vide. Comme les plongeurs en apnée, par rapport aux dangers qui pourraient survenir.
Alors, on n'est pas dans le grand bleu.
Oui.
Mais ça peut s'en rapprocher des fois. Il faut pouvoir se préparer mentalement à toutes sortes de situations. Donc, si on se conditionne à réagir d'une certaine manière en fonction d'une certaine situation, donc c'est de la préparation mentale, on réagira naturellement. C'est un réflexe après. Mmh. Donc le mental, oui, il est très, 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 très important. Il faut être tranquille dans sa tête. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Moi, je maintiens qu'il faut vraiment pratiquer dans le milieu et non pas en piscine. C'est formidable d'aller courir, de faire du vélo, mais c'est vraiment dans l'eau qu'il faut aller et tester toutes sortes de situations. Donc là, je ne suis plus dans la mer, je suis dans un lac. Le lac en lui-même, bon, ben, on n'a pas de grosses houles. Par contre, on peut avoir des vagues très cassantes qui vont s'engouffrer dans le tuba quand les thermiques se lèvent. Et bon, ben, on ne peut pas respirer tout à fait correctement quand les vagues s'engouffrent dans le tuba. Ça fait partie des choses qui sont difficiles à gérer. Pour ça, il faut toujours rester à minima dans son souffle. Il faut pas respirer trop fort. Il faut pas trop se fatiguer. L'idée, c'est donc on n'est pas du tout dans la préparation mentale qu'on peut retrouver dans des compétitions. Là, la compétition, elle est vraiment avec soi-même. Le défi, il est purement personnel. Et si je me prépare à telle ou telle situation, c'est pas du tout dans le but de gagner une course. C'est simplement pour vivre ce que je vais vivre en fait, nager.
Alors, vous allez faire quel type de nage pour faire autant de distance? Qu'est-ce qu'on fait comme nage pour faire 100 km? Oui.
Je peux juste reprendre la parole, parce que c'est tout frais. On parlait effectivement des gros poissons, des vagues, de l'hypothermie et tout. Mais en fait, la semaine dernière, lors du dernier entraînement, c'était sur la partie partie basse du lac de Sainte-Croix. Et Nelly s'est retrouvée recouverte, donc en pleine eau, d'un essaim d'abeilles. Alors ça, on n'y avait pas pensé.
Du tout.
Et c'est en parlant du tuba.
Le tuba, mon Dieu, quelle angoisse.
C'était un essai en déplacement.
Ouais.
Donc la reine a dû avoir un problème de navigation. Quoi. Mm-hmm. Voyant Nelly, ils ont pensé que c'était une embarcation ou un rocher. Et l'essaim s'est posé pour elle, sur elle. Alors l'essaim, c'est quand même 30 000 abeilles à peu près. Et donc là, c'est le coup du tuba.
Ouais, l'idée, c'est de boucher le tuba.
Il faut faire attention parce qu'il faut quand même boucher le tuba et se débrouiller pour respirer autrement. Parce que sinon, on va aspirer toutes les abeilles. Et ça, on n'y aurait pas pensé. Ouais. En ayant tout remué dans tous les sens, honnêtement, moi, je n'avais pas pensé. Quand elle m'a sorti ça l'autre jour, ça peut arriver aussi, quoi. Donc, comme quoi...
vous étiez au milieu du lac?
Elle était toute seule, il n'y avait pas d'assistance.
Ouais.
Et vous avez senti... Comment vous avez été informée?
Ça fait partie de la magie de ce qui se passe quand on se dépasse.
Ouais.
J'ai été en train de penser aux essaims d'abeilles. Et je me suis dit, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un essaim sur la berge, sur une zone que j'ai connue pour avoir vu avec un essaim. Donc la berge était assez loin, je me suis dit, s'il y a un essaim, je vais le repérer, il y aura une boule noire de très loin. Et j'étais donc en train de penser aux essaims. Et je lève la tête et j'étais dans l'essaim.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai bouché mon tuba et puis je me suis précipitée sur l'appareil photo. Et manque de peau, elles sont reparties avant que je puisse prendre des photos.
Alors là c'est sympa pour l'anecdote, mais moi je reviens aussi sur un phénomène qui est très connu des sportifs de l'extrême ou des explorateurs, c'est ce fameux non-pensé. Alors effectivement, comme vous le rediez tout à l'heure, on peut perdre la boule, mais quelque part le fait d'arriver dans cet état de non-pensé, c'est retrouver l'animal qui est en nous. Et en fait, on a une hyper-perception de notre environnement, c'est-à-dire que moi je l'ai vécu X fois au pôle, l'ours qui est derrière, à droite ou à gauche, on sait qu'il est là. Tel jaguar en jungle, on sait qu'il est là. On est capable de trouver des puits comme ça dans le désert aussi, mais il faut vraiment rentrer dans ce phénomène-là. Et ça, on a des intuitions extrêmement fortes. C'est quasiment magique. Et ça, c'est relaté depuis l'origine des exploits et des explorations, quoi. Et ça se vit encore. Et le coup de l'essaim, c'était un petit peu ça, quoi. Après, Nelly parlait d'un réflexe conditionné. Moi, je compare ça aussi à... C'est le réflexe du samouraï. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le samouraï va s'entraîner pendant 20 ans non-stop, les yeux fermés, clac, 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 et après il va pressentir effectivement son adversaire. Donc c'est dans cet état-là qu'on se met, et cet état-là est particulièrement grisant. Mais vraiment grisant, donc il est recherché. Alors il n'y a pas besoin de faire des séminaires dans un monastère bouddhiste ou quoi que ce soit, on y est tout de suite. Voilà.
Il ne faut pas se lancer de suite dans 25 km à la nage pour le rechercher.
Ouais.
Non, il faut se connaître d'abord.
Donc, on n'aurait pas pensé à ça, hein, un essaim d'abeilles. Et quelle nage vous pratiquez alors?
Alors, la nage que je vais pratiquer est assez simple, dans le sens où il faut que je puisse rester longtemps, longtemps dans l'eau, continuer à tracter tout mon matériel. Donc, je vais nager version crawl avec des palmes, tout simplement. Palme de main, palme aux pieds.
Palme aux mains aussi.
Ah oui, tout à fait. Je gagne 30% de traction avec ça. Donc ouais. C'est un outil que je découvre et que je trouve absolument formidable. Donc j'adopte.
Et avec le tuba
Alors, je ne vais pas prendre de tubes à frontal. Les tubes à frontal sont excellents parce qu'ils sont hydrodynamiques. Pour le coup, ce n'est pas nécessaire parce que je ne suis pas dans une course. Donc, j'aurai un tuba on ne peut plus basique qui me permet de respirer et c'est l'essentiel. Après, une combinaison, j'en ai plus qu'une, j'en ai trois. Donc, une combinaison adaptée à chaque température ou en tout cas frange de température de l'eau. Alors, ça n'existe pas, les combinaisons pour la nage en eau froide comme elle l'est en ce moment, pour nager aussi longtemps. Les combinaisons de triathlon sont formidables, mais en triathlon, on ne passe pas 8 heures dans de l'eau à 12-15 degrés. Donc, il a fallu que je me rabatte sur des combinaisons de surf, qui sont très bien. Un peu trop de flottabilité, pour le coup, mais c'est très bien.
Oui, parce que justement, par rapport à la flottabilité, on n'est pas pareil dans un lac qu'en mer.
En combinaison, il n'y a pas tellement de différence.
Ouais.
Du moment qu'on a une combi, ce n'est pas vraiment un problème. Après, une combinaison de surf, donc on a une plus grande flottabilité, ça occasionne des maux de dos, en fait.
Ah oui.
Parce qu'on est trop cambré. Mais à ce stade-là, ce n'est pas vraiment le problème.
Après, par rapport à la nage, enfin bon, tu disais que tu nageais le crawl, mais c'est bien, mais en fait, il y a... Elle nage un petit peu toutes les nages, parce qu'en fait, quand on arrive à la limite, à la frontière de la crampe, même si le nid n'en a pas, bon, il faut, ou des brûlures des tendons, il faut quand même varier les mouvements. Mm-hmm. Donc, il peut y avoir des brasses indiennes, il peut y avoir les deux mains en avant, il peut y avoir de la monopalme avec les deux palmes, voire à la limite, en cas de fatigue extrême, nager sur la bouée, c'est-à-dire s'appuyer comme une planche de nage et simplement battre des pieds, etc., etc. En fait, il faut arriver à trouver des nages ou des positions dites antalgiques pour soulager la partie anatomique qui est lésée, donc qu'elle se reconstitue un petit peu, et puis après, donc, pouvoir reprendre une nage efficace. Alors, c'est un effort, c'est important de le repréciser, c'est les marches au long cours, que ce soit à pied, que ce soit en nage ou autre, ce sont toujours des efforts de moyenne intensité sur une très longue distance. C'est-à-dire qu'on est dans un effort d'endurance et non pas de résistance. Donc on navigue toujours, enfin on navigue, c'est une expression, hein, en deçà de ses capacités. Et si à un moment donné, il y a un coup de bourre à donner, que ce soit à pied ou autre, et bien effectivement, on rentre effectivement sur un autre fonctionnement, on passe en résistance. Et à ce moment-là, ben, c'est une nage très rapide. Mais c'est important parce que sinon, on ne peut pas tenir le coup. C'est impossible. Que ce soit en marche, en vélo ou n'importe quoi. Hein, c'est... Voilà.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis de continuer... Ce moment très intéressant avec vous.
Thank you.
Et on revient donc dans le quartier libre avec Nelly Kars et Bruno Lambert, donc les marcheurs de la terre, les aventuriers. Et on parlait bien sûr de ce projet extraordinaire avec Nelly Kars qui va faire un exploit de nager 100 km dans les eaux des lacs et des gorges de la région PACA en nageant donc 8 à 10 heures par jour. C'est ça, Nelly?
Oui, on peut dire 8 à 10 heures par jour.
Ça dépendra des conditions météo.
Alors, le but de cette manœuvre, de cet exploit sportif, donc, c'est de faire un film et de sensibiliser les gens à l'eau.
À l'eau, voilà. Alors, en fait, là, je reviens sur le concept des marcheurs de la Terre, c'est-à-dire qu'il nous fallait... Alors, cette fois-ci, moi, je ne suis plus dans la partie engagée au niveau de l'exploit sportif. Je me tiens un petit peu en logistique et en parallèle. Mais le but étant le même, c'est-à-dire qu'à partir de cet exploit sportif, donc on va essayer de sensibiliser, d'attirer l'attention du public sur l'eau, parce que ben voilà, c'est séduisant. Une jeune femme de 32 ans part dans l'eau, elle va nager 100 km, etc., etc. Donc c'est le volet éco-communicatif. Donc toute la partie conférence de presse, le suivi en temps réel par Facebook, etc., fera qu'on va déjà commencer à sensibiliser les gens sur l'eau dans les très 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 grandes lignes, sans rentrer dans le détail. Dans un second temps, il va y avoir un sous-projet. Alors ce projet-là, pardon, je reviens un petit peu en arrière, ça s'appelle la Dame des Lacs. Hein, c'est devenu la Dame des Lacs. Alors, on appelait déjà Nelly comme ça avant. Donc, ça va être le nom de l'exploit sportif et le nom du documentaire. Il va y avoir un film documentaire de 52 minutes qui va être produit par Octopus Productions, qui va relater donc, cet exploit dans nos lacs de PACA, tout en dressant un panorama géographique et culturel de ces espaces d'eau. Parce que c'est vrai qu'à travers les lacs, quand on commence à parler de Serre-Ponçon ou de Sainte-Croix, bah tout de suite, on voit les villages ennoyés, on voit les barrages, on voit tout ça, quoi. Donc, il y a énormément de choses à dire. Il n'y a pas que la partie environnementale dans le sens écologique, mais il y a également la partie patrimoniale. En parlant d'un lac, on va parler de ce qu'il y a dessous, on va parler des gens qui ont vécu dessous à l'époque. Et ce n'est pas si vieux. Donc ça, c'est pour la partie La Dame des Lacs, film documentaire de 52 minutes, qui devrait être théoriquement... finalisé pour le mois de janvier 2018, que je dise pas de bêtises. Alors on a déjà commencé à faire des images, hein, donc ce qu'on appelle des images additionnelles. Ensuite, on va déployer un nouveau projet éducatif qui s'appelle H2O. Alors c'est pas H2O, H2 avec le O, c'est H2O, E-A-U-X. Voilà. Pour cette fois-ci rentrer dans le détail auprès d'un plus large public, mais toujours en focalisant quand même sur les petits. Alors les petits, ça va quand même jusqu'à la fin du collège, voire le lycée, hein, c'est quand même jusqu'aux adolescents. Le but étant, cette fois-ci, non plus de sensibiliser, mais d'éduquer. Donc on passe à un volet nettement différent. Le public sur l'eau élément, l'eau ressource, l'eau dans le monde, l'eau en Provence, hein, puisqu'effectivement, ça va se faire aussi en Provence. Également, toutes les problématiques liées à l'eau, ça peut être les crues, les tsunamis. En fait, c'est eau douce et salée. Donc, on va essayer de dresser un portrait très, très, très général et très global de l'eau en faisant parler notre expérience, donc, de l'eau. Alors, Nelly, pour le coup, il y aura l'expérience de la Dame des Lacs, il y aura l'expérience du lagon. Moi, de mon côté, je parlais de l'eau sous les tropiques, en jungle, de l'eau sous forme de banquise. Donc, on va reproduire ce qui a été fait ces 20 dernières années, mais cette fois-ci avec autour de la dynamique de l'eau. Voilà.
Donc alors, c'est un deuxième projet.
Alors c'est un sous-projet, c'est-à-dire que le projet Water Stories englobe la Dame des Lacs, qui est l'exploit sportif et le film documentaire, et dans un second temps H2O, qui va aussi s'appuyer sur le film La Dame des Lacs, qui sera destiné d'un côté aux télé et puis aussi à l'illustration des interventions et des conférences. Alors le projet éducatif en lui-même, il ne faut pas le sous-estimer, parce que c'est vrai que c'est moins impressionnant que le défi sportif, mais il va nous coûter au moins un an de travail, et ça fait déjà 2 ans qu'on y gamberge. Hein. Alors ce projet-là, ce sera des expositions itinérantes qui pourront être... qui pourront illustrer des conférences ou alors être véhiculées auprès des CPIE, des Comcom, etc. etc. Il y aura également tout un lot de fiches pédagogiques spécifiques en ligne, consultables en ligne. Et puis il y aura des interventions en salle, des formations par le biais Internet. En fait, c'est un projet transmédia. et des sorties de terrain, puisque nous sommes habilités à pouvoir faire ce type de sortie. Cela dit, quand je parlais des formations, ce sera également... Enfin, moi, j'aimerais beaucoup arriver à créer des modules de formation pour les animateurs et intégrer ça dans leur future formation de façon à ce qu'eux, en tant qu'animateurs, dans les écoles, les centres aérés, les colonies, puissent effectivement donc apporter une connaissance sur l'eau. Voilà. Mais une connaissance beaucoup plus académique, puisqu'en fait, ils n'auront pas vécu ce que nous, on a vécu. Voilà. Mais c'est très important parce que... dans les années, quand j'ai créé les marcheurs, on parlait beaucoup... les gens étaient en pleine prise de conscience du réchauffement climatique, la fonte des banquises, les ours blancs qui étaient des beaux ambassadeurs, etc., etc. Bon, malheureusement, le problème écologique planétaire est loin d'être résolu. Il continue à s'aggraver. Ça, c'est clair et c'est net. On n'en parle pratiquement plus, nulle part. Et on peut constater même un certain ras-le-bol, je dirais, des gens dans le domaine de l'écologie. Le problème, c'est que l'écologie, c'est pas de la politique. Tout simplement, c'est une science, tout simplement. Et il est vraiment important de comprendre que si demain, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'air, c'est fini. Donc, le social, le politique, l'économique, on n'en parle plus. Ça s'arrête là. Donc, il est vraiment important de remettre encore une couche par-dessus. Et quand on n'y sera plus, ce seront d'autres pour continuer à en parler. Et le principe étant, nous, ce qu'on aimerait faire à travers Water Story, c'est arriver à transmettre l'amour de l'élément, l'élément eau. On aime l'eau, tout simplement, on n'en a pas peur, on l'aime, pour après protéger la ressource. Et c'est là qu'on bascule sur l'écologie et du social. Voilà. Et c'est vrai que, ça se sait, tout le monde le sait, naturellement, on va protéger ce qu'on aime. On va d'abord protéger ses enfants plutôt que les enfants des autres. Tout simplement. Ben, c'est pareil pour les éléments en eux-mêmes, tout bêtement. Quand on aimera la forêt, ben, on protégera d'autant mieux la forêt, etc., etc. Et c'est ça qu'on voudrait faire passer à travers ce projet-là.
Alors, on va revenir à Nelly, Nelly Kars. Donc, on parlait de cet exploit de nager ces 100 km sur une dizaine de jours, c'est ça, au niveau de la durée ?
Sur une dizaine de jours.
Une dizaine de jours, donc heureusement avec une combinaison et tout ce qu'il vous faut comme sécurité autour de vous, puisque ce sera une nage autonome. Donc, vous parlez de ce... De cette chose, c'est quoi ? C'est comme un petit bateau, une bouée gonflable
Alors c'est pas, ça peut s'apparenter à une bouée gonflable. C'est une planche de chasse pour chasseurs sous-marins à l'origine.
Oui.
Donc c'est très, très, très pratique comme outil. On peut mettre le matériel dessus, donc en l'occurrence la pharmacie, les vivres, un moyen d'alerte, un bon fanion aussi pour être visible de loin, parce que dans certains lacs, il peut y avoir des jolis creux quand même, hein, notamment sur Sainte-Croix, Serponçon.
Ah oui, donc il faut vraiment, vraiment être visible et vous avez tout ça. On parlait de se reposer. Comment vous allez vous reposer dans cette... est-ce qu'on s'arrête, on fait la planche ou on accoste ? Qu'est-ce qu'on fait pour se reposer ?
Si je veux me reposer et accoster, je peux. Il n'y a pas d'interdiction à ça. Mm-hmm. Après,
il n'y a pas de délai non plus que vous vous fixez dans la vitesse, dans la durée.
Si, il y en a un.
Il y en a.
C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tributaire des vents thermiques. Le vent thermique, c'est le vent qui va se former généralement l'après-midi, une fois que le relief et l'eau a été surchauffé. Donc il va y avoir des échanges de masse d'air, ça va créer du vent. Ce vent-là, ça va créer des vagues. Ces vagues, ça va créer de la résistance. Ah. Et chez nous, ce qu'il peut y avoir, c'est que si on attend encore un petit peu plus tard dans l'après-midi, il peut y avoir des formations orageuses. Et à ce moment-là, selon où on se trouve, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que si vous êtes coincé dans les gorges de Quinçon, pour ceux qui connaissent, quand il y a l'orage, ça devient très dangereux.
Vaut mieux nager très tôt le matin.
Il vaut mieux nager, voilà, c'est ce que je voulais dire. On part très, très, très tôt le matin, c'est-à-dire quasiment à la nuit. Idéalement, il faudrait que la nage soit terminée à 12-13 heures. Parce qu'à côté de ça, il faut faire l'assistance, non pas dans l'eau, mais par la voie routière ou pédestre. Il faut continuer à faire le film, ce qui n'est pas du tout évident. Et après, de retour au camp de base, donc on aura 3 camps de base à peu près dispatchés sur toute la zone, il va falloir faire le nécessaire pour recharger les batteries, etc., etc., s'occuper du film, traiter les images, du moins les dégrossir, envoyer des communiqués sur Facebook, des communiqués que Nelly enverra en nom propre, alors qu'elle va être complètement crevée, et moi, dans ma partie logistique, on va dire, mais ça va être assez, assez sobre, mais disons qu'il faudra quand même le faire. Ensuite, se restaurer copieusement et dormir très, 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 très tôt de façon à se lever à 3 heures.
Vous allez faire un film, donc, bien sûr, qui sera visible après, mais oui. Il n'y aura pas une... Les gens sur Facebook ne vont pas la suivre dans sa nage.
Non, ils ne pourront pas la suivre. Ils pourront la suivre avec des photos du jour. Voilà, et un petit commentaire qui correspondra aux événements de la journée. On est obligé de faire assez sobre parce que c'est vrai que son temps de sommeil sera quand même assez limité, le mien aussi. Et puis le reste de l'équipe, parce qu'en fait, on va être aidé par plusieurs personnes.
Donc on va voir votre rôle à vous dans cette
aventure. On verra moins cette fois-ci. Bon, on verra un peu quand même, ouais.
Mais quel va être votre rôle précisément ?
Ah, moi, mon rôle, ah, ben là, je m'occupe de tout ce qui est logistique, sécurité, et puis je manage toute l'équipe de tournage. Cette équipe, ce sera 50% du temps, ce sera moi tout seul, de toute façon, parce que c'est vrai qu'il faudra être partout à la fois et avoir le projet en tête, donc ce n'est pas évident. Ensuite, il y a pas mal d'images qui seront faites aussi en amont et en aval. Bon, ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. La sécurité au cas où, c'est-à-dire qu'on aura quand même des rendez-vous téléphoniques ou radio dans les zones, couvertes par le réseau, parce qu'il y a quand même des zones où il n'y a pas de réseau. Donc là, ça peut être effectivement un relais radio. Alors là, bon, il faut espérer qu'il ne se passe rien, parce que là, il faut déclencher les secours. Et puis, après, je m'occuperai de tout remballer et tout préparer pour le lendemain, quoi. C'est-à-dire que ça va faire des journées qui vont durer à peu près des journées de 18 heures, quoi. Il y aura 4 heures de sommeil à tout casser. Voilà, Nelly ne pourra pas faire la sieste. Donc, il est prévu, effectivement, qu'elle dorme dès qu'elle enlève sa combinaison dans un véhicule. C'est-à-dire qu'une heure ou deux de voiture, eh ben, ça suffira déjà pour dormir un petit peu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va être très, 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 très soutenu sur 10 jours. Et c'est vrai que voilà, bah, mon rôle ce sera de manager tout ça. Alors c'est vrai que bon, moi je passe du monde des grandes expéditions à celui-là, bon, ça m'affole pas plus que ça. Par contre, je suis très conscient que ça va être très très soutenu, quoi.
Donc vous aussi, vous êtes entraîné.
Oui, moi je suis obligé
de faire l'entraînement
complètement
à ses côtés pratiquement.
Oui, oui, ben moi de toute façon, aux marcheurs on pagaie tout le temps, on nage pas autant que Nelly, hein, on est à l'aise sur tous les terrains, on va dire.
Donc ça demande une équipe de combien de personnes ?
Le noyau dur des marcheurs de la Terre, on va dire, parce que le marcheur, c'est une marque, hein, on est bien d'accord. Hors expédition, ça va de 2 à 5 personnes, ça s'arrête là, c'est tout. Après, par contre, pendant l'expédition, alors la phase de l'expédition, il peut y avoir une phase de tournage, il peut y avoir une phase d'entraînement, il peut y avoir une phase où on va simuler des situations qu'on ne pourra pas vivre en temps réel, on ne pourra pas les filmer. Donc en fait, on va faire de la reconstitution qui passera dans le film. Alors là, par contre, c'est vrai que, bon, par exemple, ben moi, s'il me faut un pilote au moteur, un preneur de son, moi, je peux faire le caméraman ou alors je fais le pilote. Par contre, en tant que réalisateur, c'est moi qui donne les consignes. Donc idéalement, sur les périodes de bourre, il faudrait être 3 plus un chauffeur. Mais ça, c'est idéal. Il faut savoir que les budgets sont très élevés, on ne les a pas encore obtenus. Il y a quelques bénévoles qui vont intervenir. Donc les bénévoles, c'est toujours pareil. Ça peut être des bénévoles de l'association, des amis, de la famille. Mais ça ne fait pas tout. Voilà. Et on ne peut pas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, se permettre d'envisager d'embaucher 3 personnes à plein temps sur 10 jours, tout simplement parce que ça va coûter une fortune. Alors, si d'ici là, on arrive à boucler le budget, il n'y aura pas de souci. Idéalement, ce serait 3, plus moi. Voilà.
Alors, vous parlez de ce documentaire de 52 minutes, ce sera le résultat.
Oui.
Est-ce que vous allez utiliser un drone pour filmer ? Comment vous allez faire ?
Alors, les drones, si nous avons le budget, il y aura probablement des drones. Par contre, il faut savoir que la réglementation des drones est très, très stricte en France. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas survoler tous les lacs. Les lacs, il y a des zones militaires, notamment à Chaudanne-Saint-André. Vous avez les barrages EDF qui sont sous très haute protection. Ensuite, les agglomérations, même un tout petit village comme Bauduane ou Sainte-Croix, pour être à côté de chez nous, on ne peut pas les survoler, ce qui est tout à fait normal. Les plages, on ne peut pas les survoler. Les pêcheurs, on ne peut pas les survoler. C'est normal. Bon, on doit respecter aussi l'intimité des gens. À côté de ça, il y a aussi des problèmes techniques. Alors si je vous parle assez facilement des drones, c'est qu'effectivement, ça fait partie c'est l'un des modules qu'on est en train de développer au sein d'Octopus Productions. C'est une grosse contrainte, le drone. Alors il est possible, effectivement, qu'on fasse quelques panoramiques, je dirais, en drone. Par contre, la nage en elle-même ne sera pas suivie et ne sera pas suivable en drone parce qu'on n'a pas le droit de passer à tel ou tel endroit. Si, par exemple, vous voulez faire un joli survol dans les gorges de Quinçon, ben, il faut savoir, on l'a appris récemment par des gens du parc du Verdon, vous avez un couple d'aigles qui en a ras-le-bol de voir des drones et en fait, ils attaquent les drones et les font tomber. Et ils ont raison.
Et à propos de caméra aussi, l'espèce de GoPro, enfin GoPro c'est une marque, mais
voilà, les caméras d'action,
petite caméra sur la bouée ou...
Alors il y aura des caméras d'action. Alors Nelly partira avec un masque équipé d'une attache justement pour ce type de caméra. Voilà, elle aura une caméra sur elle au cas où il y a quelque chose d'exceptionnel qui ne puisse pas être filmé, ou un appareil photo, etc. Donc ce sera vraiment de l'image en live. Alors on peut imaginer un silure de 5 mètres qui lui passe dessous et qu'elle a la GoPro, c'est magnifique quoi. Ce serait un sacré scoop d'ailleurs. Donc elle aura effectivement cette petite caméra. Par contre, toutes les images seront faites à la mise à l'eau, à la sortie de l'eau. Et il y aura, comme je disais tout à l'heure, il y aura quand même quelques plans qui seront tournés au préalable quand elle sera en situation. Voilà. Après c'est du live, quoi. De même que si elle a moyen, à la limite, de faire des pauses et d'enregistrer des impressions à chaud, c'est très très important parce qu'on peut toujours tout réécrire après. Mais ça n'a pas la même valeur émotionnelle que ce que l'on vit quand on est pris sur le vif, quoi. Voilà. Et ça, c'est toujours un petit peu la difficulté, qu'on soit sur la banquise ou dans le désert. Et là, dans l'eau, ça va être encore un petit peu plus difficile. Bon, ceci dit, il y a quand même maintenant des petits enregistreurs numériques qui peuvent, à la limite, faire office de captation de son, quoi. Et ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Parce qu'après, le film, en fait, va s'articuler entre une présentation géographique de notre région, en partant effectivement de on va dire, toute la région, hein, de Briançon à la mer. Il va y avoir une partie sur l'historique, la culture des anciens villages, etc. Bien sûr, un volet sur l'écologie. Et après, il y aura tout un volet sur les impressions à chaud de la nageuse. Donc il va y avoir du récit d'expédition ou du récit d'exploit, donc au fur et à mesure du déroulement du film. On va essayer d'associer ces deux aspects-là.
Alors, on a vu tout à l'heure aussi avec Nelly que c'était pas évident de se guider sur l'eau pour trouver ses marques et pas tourner en rond. C'est pas possible de longer le bord du lac pour traverser un lac.
Faire du longe-côte, oui, c'est complètement possible. Par contre, il y a des endroits où ce ne sera pas possible. Il peut y avoir beaucoup de pêcheurs, donc de lignes.
Ah oui.
Je vais les éviter.
C'est une bonne idée.
Donc, il n'y aura pas que ça, hein, d'autres embarcations, oui. Des gens. Donc, mon cap, j'ai un cap à suivre. Par contre, dans la réalité, ce ne sera pas forcément celui-ci. Et je vais devoir louvoyer aussi entre les différentes personnes.
Il n'y a pas de boussole dans l'eau
Oh, je n'aurai pas besoin de boussole. Non. Si je veux, je peux en emporter une, mais ce ne sera pas vraiment ça qui sera important. Je saurai où j'irai, il n'y aura pas de gros brouillard. Par contre, garder le cap dans ces conditions-là, ça demande surtout d'être très, 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 très attentif. Sortir très souvent de la tête de l'eau et sans casser forcément son rythme, parce que le rythme doit rester régulier.
La berge, il faut que ça reste un fil d'Ariane, parce qu'en fait, si vous prenez, là je m'adresse aux auditeurs de chez nous, le lac de Sainte-Croix en ligne droite, c'est-à-dire de Moustier au barrage, il y a à peu près 11-12 km en ligne droite. Si vous longez cette côte-là, on double. Mm-hmm. Donc en fait, on n'aura jamais le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas 100 km qu'il va falloir faire, c'est 250-300. Et là, pour le coup, ça ne passera pas. C'est-à-dire que les côtes sont tellement découpées qu'en fait, il faut vraiment tracer droit. La côte, il faut s'en rapprocher uniquement en cas de sécurité, c'est-à-dire s'il y a un orage, il faut en sortir aussitôt. Si effectivement, le matin, il y a un brouillard très très dense ou des pêcheurs, bon ben voilà, ou s'il y a une présomption de malaise. Donc voilà. Mais sinon, en termes de navigation, bon, même si ces lacs-là sont assez grands, ça reste quand même des petits lacs par rapport aux lacs qu'on peut trouver au Canada ou en Afrique, quoi. Où là, pour le coup, il faudrait vraiment un compas. Voilà. Mais là, ça va quand même.
Alors, on va parler de quelque chose aussi d'assez hors du commun, puisque vous m'avez parlé hors antenne d'un problème que vous aviez depuis l'âge de 10 ans, l'acrosyndrome des extrémités. Alors, qu'est-ce que c'est, Nelly?
C'est un acrosyndrome, donc pour l'instant pas encore défini. Donc, c'est un problème vasomoteur. Je me refroidis particulièrement vite. Le principe est simple. Le corps considère qu'il a besoin de récupérer le sang des extrémités pour sauvegarder les organes vitaux dès qu'il y a un refroidissement. Donc le sang se retire des extrémités et ça peut aller jusqu'à la nécrose, c'est-à-dire que les doigts peuvent mourir dans des conditions vraiment très très froides. Donc là dans le lac ce ne sera pas le cas. Par contre, travaillant en montagne, j'y suis confrontée au quotidien. Tant que la nage est soutenue, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, il suffit que je me repose, tout simplement, que je sois à l'arrêt, pour que ça se réveille. Le but, c'est vraiment de l'éviter. Donc, les traitements actuellement occasionnent des baisses de tension, donc ce n'est pas vraiment préconisé dans ce cas-là. Je vais rester sur des traitements homéopathiques avec ce qu'ils vont pouvoir apporter. Et surtout, me suréquiper. Donc, des gros gants bien chaud, très très important, boire du thé chaud, ne pas me refroidir sur une eau qui peut être à 23-24 degrés, ce qui est relativement confortable en été, et il va y en avoir des eaux comme ça au mois de septembre. Quand on y passe 8 heures d'affilée, même bien équipé, on se refroidit. Donc on parlait tout à l'heure, par exemple, des témoignages en direct du vécu, mais il va y avoir des témoignages qui seront difficiles à articuler, parce que le visage se refroidit, et la face donc se refroidit, et j'ai du mal à articuler quand je m'entraîne pendant longtemps, tout simplement parce que la bouche est en train de geler.
On peut faire vraiment un thriller avec... Bon, et donc là, vous êtes le projet donc va devenir bien réel. Le départ de cette nage, de ces 100 km, va se faire quand ?
La mise à l'eau est prévue pour début septembre, sensiblement à la rentrée des classes. Bon, après, ça peut être différé de quelques jours si vraiment on a des gros épisodes météo néfastes, mais idéalement pour nous, ce serait ça.
Septembre alors.
Septembre, tout simplement parce que déjà les lacs vont se vider. C'est quand même. Alors c'est vrai que j'en reviens encore à Sainte-Croix parce qu'on y est quasiment tout le temps. On a toujours de la place, mais par contre, il y a quand même des zones où ça bouchonne un peu, quoi. Mesparon et compagnie en plein été, c'est pas vraiment l'endroit idéal, quoi. En septembre, il y aura presque plus personne. En septembre, l'eau se sera énormément réchauffée. Le sous-sol aussi, c'est-à-dire que l'eau sera relativement bonne. Et on peut espérer quand même, on peut espérer une bonne météo, quoi. Ce serait l'idéal. Ce qui nous permettrait aussi, en théorie, de terminer le film pour le mois de janvier, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup que début janvier 2018, le film soit là, clé en main, quoi. Parce que là, ça va être encore 3 mois de montage non-stop, hein, à peu près.
Alors, on va bientôt se quitter. De quoi a-t-on omis de parler ?
Moi, je vais laisser tomber le rêve de côté. le projet coûte à peu près 110 000, 115 000 euros, on va dire, pour la nage, la logistique, pour le film et pour le déploiement du projet éducatif avec la construction des supports. Hein, donc je reviens encore sur mes expos, etc. Bon, même si c'est un projet multipartenarial, ben cet argent, on ne l'a pas. Mais c'est souvent le cas, de toute façon. Hein. Sur le pôle Nord, des fois, on a eu l'argent 2 ans après. Donc, c'est des surendettements de tous les côtés, etc., etc. C'est pas facile. Donc, moi, je lance toujours un appel aux sponsors. Voilà. Alors, les sponsors, ça peut être des financiers, ça peut être des techniques aussi, du matériel photo, vidéo, son, du matériel technique, sportif, des bateaux, des moteurs, des barres énergétiques, etc., etc. Voilà, il y a... Donc, c'est vrai que c'est un petit peu la face cachée de l'aventure. Ça fait pas très rêver, mais c'est quand même une réalité qu'on doit gérer au quotidien, quoi.
Donc un appel aux sponsors, divers et variés, c'est-à-dire ça peut être matériel et ça peut être financier.
Et financier, voilà. Après, toutes ces aventures peuvent être suivies sur la chaîne YouTube Les Marcheurs de la Terre et la page Facebook, et également le site de l'association Médiataire PACA. Sachant qu'on n'est pas des compulsifs de l'information, c'est-à-dire que les informations sont données à peu près tous les 10 ou 15 jours, à peu près,
oui.
Hein, de façon à avoir quand même suffisamment de matière, et pourra être suivie en temps réel, au jour le jour, par contre, pendant la nage. Ça, c'est clair.
Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut la suivre ? Sur quel site ou quel...
Ah oui, alors je disais, il y a la chaîne YouTube, il y a la page Facebook, donc Les Marcheurs de la Terre, et puis après, vous avez l'association Médiataire PACA. Média, comme un média, le média de la Terre, PACA.
Donc le site www.mediaterrepaca.fr.
Voilà, et puis après, pour en savoir plus, on a également nos sites à côté en tant qu'accompagnateurs. C'est les Marcheurs de la Terre, Entre Terre et Mer, Passionnément Rando, etc. etc.
Oh, il y en a plein, donc il faudra les écrire quand on les met sur notre site aussi.
Il y en a pas mal, sinon vous tapez les Marcheurs de la Terre. Voilà.
Eh bien, on va se quitter en musique. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Nelly, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Oh, je ne sais pas, ça dépendrait de ce que chacun peut penser de cette aventure et de ce qu'il peut penser à l'eau. Bon courage peut-être, tout simplement.
Bon courage.
Alors il y a un petit clin d'œil aussi que je voudrais faire, c'est que le projet Water Story, c'est le début d'une série de projets sur l'eau. Il y en aura d'autres dans le futur. Si tout fonctionne bien, à terme de 2 à 3 ans, il y aura 1000 km de nage en Méditerranée, en autonomie également. Cette fois-ci, non pas pour parler de l'eau en elle-même, mais pour parler du sort de la Méditerranée, des mers et des océans, du rivage et des fonds marins. Voilà. Alors, 1000 km, c'est encore une autre histoire. Ce serait le projet Posidonia. si tout se passe bien.
Et c'est toujours avec Nelly Cars.
C'est toujours avec Nelly parce que c'est pas moi qui ferai la nage.
Voilà. C'est beau d'avoir des projets pour vous comme ça, Nelly. Vous êtes partante.
Je suis partante. Je pense que c'est très très important de continuer à projeter, à rêver. Et c'est ça qui fait avancer le monde.
Vous avez quel âge ?
J'ai 32 ans.
32 ans, et j'imagine que vous avez une hygiène de vie très très.
Moi, je suis une saine. Bonne vivante, donc je mange bien.
Ouais.
Et je bouge beaucoup.
D'accord.
C'est une règle, ça. Mm-hmm. C'est vrai qu'il faut être bien dans sa tête. Alors bon, des régimes trop, trop draconiens, c'est bien au niveau diététique, mais quelque part, si le contrepoids de la balance et de la contrainte, c'est pas bon non plus, quoi. Alors c'est vrai qu'autant, effectivement, de se faire plaisir, alors, il n'est pas question de manger, de boire n'importe quoi, attention, hein, soyons bien clairs. Hein. Il y a une certaine hygiène, ça va de soi. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité.
Et alors là, pendant l'exploit, encore une fois, ça va être beaucoup de barres énergétiques, des fruits secs. Qu'est-ce que vous allez manger pendant...
Il faudra que mon corps assimile très rapidement. Donc, pendant la nage en elle-même, évidemment, je vais grignoter, donc beaucoup mm-hmm. d'aliments énergétiques, beaucoup de boissons chaudes additionnées de miel. Mm-hmm. Et puis, le soir, plat de pâtes comme
tout le monde.
Comme
voilà.
Tout le monde.
Il n'y a rien de mieux que les pâtes et le riz. Hein.
Ouais. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus en parler en direct sur notre antenne.
Merci à vous, encore une fois.
Et puis, j'aimerais être au-dessus pour suivre cette aventure au-dessus de l'eau. Et bon courage et bravo d'avance pour ce beau projet, Bruno Lambert et Nelly Cars. Très bonne soirée. On se quitte en musique avec ce que vous avez choisi de nous faire écouter, The Arena de Lindsay Sterling.
Voilà.
Merci, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.